Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une communication sur un effet l'uranium, et vous remarquerez quelques images qui ressemblent fortement à ce que nous a montré Guy Hollard tout à l'heure, en tout cas une sur le vue du charbon qu'on verra tout à l'heure. Donc, l'uranium, on en a parlé il y a 12 ans déjà, quand on a publié un cahier du patrimoine, alors que j'étais encore à l'inventaire sur ces extractions-là, l'uranium vendéen. Évidemment, Pierre Christian a publié, je ne sais pas, 7 ou 8 bouquins sur les différentes divisions françaises. Il y a eu des travaux aussi de Pocard et autres. Et Areva a sorti, au tournant de l'année dernière et de cette année, deux sommes colossales de près de 600 pages chacune sur les décennies 60, 70, 80, qui sont des ouvrages absolus de référence sur cette question-là. Et alors, je suis assez content que Michel Dehaye ait fait justement ce parallèle avec cette question agricole, parce que ce que vous voyez ici, c'est une mine. C'est une mine qui se situe... alors, la limite, je pourrais juste vous montrer que ça, puisque c'est un peu le propos que je voudrais faire avec vous. Mais au-delà de ça, en n'étant pas trop superficiel quand même, Pierre Christian nous a dit qu'on n'allait pas trop parler de souterrain, en tout cas sur la question du paysage, mais on reviendra peut-être à cette question-là tout à l'heure. En tout cas, j'espère pas être, quant à moi, trop superficiel en parlant de surface. Je l'espère. Donc, ce qui se passe, c'est... Aussi, une question qui m'intéresse bien, moi, en tant qu'historien des techniques et historien du patrimoine, c'est cette question de la disparition possible. Et en effet, la mine est peut-être quelque chose qui est moins pérenne que d'autres choses. Le paysage rural peut être considéré comme étant quelque chose qui fonctionne sur du temps long. Et c'est vrai que là, on a un exemple peut-être... encore plus emblématique de la non-pérennité possible des situations minières, dont on verra qu'elles sont liées, en effet, non pas seulement à des réalités géologiques, mais qui sont, en l'occurrence, la présence d'un minerai dans un encaissant de manière satisfaisante. Mais, justement, en disant ça, ça pose aussi la question économique, c'est-à-dire que la présence d'un minerai dans un encaissant de manière satisfaisante, ça veut dire qu'il faut pouvoir l'exploiter à des coûts possibles pour l'exploitant. Et c'est un peu toute la question de l'uranium et de l'extraction de l'uranium en France, dont on verra quelques éléments. Alors, en effet, cette chose, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc que, dans l'ensemble du territoire français, à partir de la fin des années 40 et au début des années 50, on a voulu développer au commissariat à l'énergie atomique, deux branches très différentes, mais très liées à l'époque, c'est le nucléaire civil et c'est le nucléaire militaire. Là, je vais évidemment vous parler que du nucléaire civil, et en l'occurrence, l'extraction de l'uranium pour des besoins d'obtention ensuite d'énergie électrique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu toute une série de prospections, de recherches, et on a donc établi petit à petit ce que vous voyez ici, une carte du milieu des années 80, qui est la situation en noir des permis miniers pour l'uranium en France. Donc vous voyez finalement qu'il y en avait énormément dans le Massif central, du Limousin avec la division de la Crouzille, et le site toujours actuel de Bessines, non plus en exploitation minière, mais site de Bessines quand même en termes de logistique pour Areva. Et puis, des sites importants dans le sud du Massif central aux confins de l'Oder. Et puis, des sites bretons. Et ce qui nous intéressait un peu plus ici, c'est les sites de ce qui s'appelle la division Vendée, de ce qui s'appelait la division Vendée jusqu'en 1991, et plus particulièrement le site de l'Écarpière. Alors, pour revenir à la photo précédente, on passe d'un filon, la pêche blinde, d'un filon, le minerai. Donc vous voyez ici une photo agrandie, évidemment sur l'écran, mais dont vous voyez un très très bon filon qui était en fait un des filons de Piriac, Piriac étant une des mines, presque une mine offshore, puisque ça partait du bord de la mer à côté du camping de Piriac, pour ensuite plonger en souterrain sous l'océan Atlantique avec des épaisseurs de filons tout à fait honorable, puisque ça dépassait quelques centimètres, et avec des teneurs tout à fait honorables aussi, puisque ça s'est allé à Piriac jusqu'à, si j'ai bonne mémoire, 7 pour 1000. Donc on est sur des teneurs faibles, on est sur des teneurs comparables à l'or, à peu près, et on est sur des systèmes filoniens extrêmement étroits, avec donc des problèmes, un, de prospection pour le trouver, et deux, ensuite, d'exploitation, évidemment. Et on passait, en tout cas, à la division Vendée et à une usine de retraitement qui s'appelait la CIMO, la Société industrielle des minerais de l'Ouest, à un produit concentré à 95% en uranium, ce qu'on appelle le yellow cake, qui est donc cette poudre jaune qui est un concentré presque intégral de ce minerai. Donc, je vous ai dit importance de la prospection, importance aussi du coup avec des outils comme ce scintillomètre qui permettent de faire la prospection manuelle. D'autres types de prospection, je passe les détails sur la prospection systématique avec des systèmes de prospection à la fois aérienne, à la fois sur le terrain et puis un maillage de plus en plus précis. Avec une connaissance aussi nécessaire de la géologie, donc une invention aussi de la géologie, non pas sur des grands systèmes géologiques qu'on connaissait évidemment déjà à l'époque, mais des précisions très sérieuses sur certains éléments, et en particulier les granites, qui sont des éléments dont on connaissait le potentiel uranifère. Ce que je vous montre ici, c'était très rapidement quelques indications sur, en effet, ce système minier qui est allé jusqu'à des exploitations en milieu maritime, offshore, tout près de la côte quand même. Mais là, on avait des sondages. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez là, c'est l'exploitation de Piriac avec une partie en ciel ouvert, une partie en descendrie, les différents panneaux d'exploitation et, en effet, les galeries qui s'enchaînaient pour aller sous la mer, au bord de la côte. Mais ce dont nous allons parler cet après-midi, c'est plutôt la région de Clisson, avec deux sites, un site que vous a montré Pierre-Christian tout à l'heure, et dont j'aurai aussi une photo aérienne, qui est le site de Gorge, qui est le site de la commanderie à Gorge, mais surtout le site de l'Écarpière, sur lequel je vais me focaliser mon propos de ce soir. Déjà une première remarque, dont on va reparler en conclusion, c'est le fait que si on connaît quand même le Nord, la Lorraine ou d'autres bassins comme étant des zones minières assez privilégiées, il n'est pas évident pour tout le monde de parler des Pays de la Loire comme zones minéralifères riches. En effet, ce n'est pas des grandes mines, mais il y a un potentiel minier et important. Et en effet, on a donc pu exploiter différents types de mines. Il y a eu de l'étain, il y a eu du fer. On verra aussi cette question autour de cette question du souterrain. Qu'est-ce que c'est que le souterrain, peut-être un peu plus tard et éventuellement dans la discussion. Mais, en tout cas, à Clisson, on ne parlait jamais, on n'a jamais parlé, ou très peu, en tout cas, de l'extraction de l'uranium à Clisson. Pour ceux qui connaissent un peu le pays nantais et la Sèvre nantaise, quand on parle de Clisson, on parle plutôt de l'architecture à la clissonnaise, de la Garenne-Lomo, de choses comme ça, tout à fait bucoliques, intéressantes cependant, avec une architecture tout à fait remarquable, et au passage, avec des choses dont on parle peu ou pas assez, mais dont on va peut-être parler un peu plus dans les années qui suivent, qui viennent du fait d'un travail qui se renouvelle un peu autour de l'institution de la Sèvre nantaise, c'est un patrimoine industriel hydraulique absolument extraordinaire, très variés, liés à des moulins à papier, moulins à farine évidemment, moulins à temps, papeterie, etc. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la situation de ce dont on va parler, au sud-est de Nantes, à une trentaine de kilomètres de Nantes, la zone de Gétigné à l'Écarpière, dont vous devinez ici la limite départementale, c'est donc une zone. Ça a un intérêt sur les questions institutionnelles, c'est qu'on va avoir pour la fermeture de la mine affaire à des arrêtés interpréfectoraux, une zone qui se situe entre la Loire-Atlantique essentiellement, mais en bordure du Maine-et-Loire. Ici, l'étendue de la concession de Clisson telle qu'elle a été redéfinie en 1969, avec donc qui sont ici que vous reconnaissez, les carpières dont on a parlé, et puis la zone du Chardon et une petite mine qui n'a pas connu de grand développement, beaucoup moins que le Chardon, c'est les Mortiers, et puis Baconnières et Anjougerie qui sont elles aussi des petites mines plus à l'est. En fonction de quoi ça s'est défini, cette concession? Eh bien, tout simplement en fonction d'une connaissance très très fine de la géologie locale et sur la bordure nord que vous voyez ici d'un ensemble géomorphologique qu'on appelle le batholite de Mortagne. On va travailler à la limite de ces leucogranites-là. Donc, on est dans du granit, mais on est dans une limite, d'une situation géologique, et on va trouver ici des concentrations uranifères tout à fait intéressantes, puisqu'elles vont dépasser le pour mille. Avec donc des données statistiques très rapides, d'abord une production de 13 600 tonnes et plus d'uranium marchand, c'est-à-dire à peu près, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, un équivalent en fin de parcours de 2 ans de production électronucléaire française. Ce qui était quand même pas rien, c'est-à-dire qu'on est sur la division Vendée sur en gros 10 à 15% de la production totale française. Et puis des effectifs qui, vous le voyez à partir des années 50, je ne sais pas si vous lisez bien, c'est marqué 54, dont on va donc de 1954 à 1991, avec un pic d'effectifs à 800 en 1957-58. Et un pic sur le site de l'Écarpière de 397 agents, c'est-à-dire c'est une mine tout à fait importante. Donc, première découverte, premiers indices dans les années 50, première prospection au tout début des années 50, premiers indices en 1950 et première exploitation en décembre 1952, c'est le premier travers-banc ici, avec un des premiers mineurs embauchés sur la mine, qui en l'occurrence s'appelait Joseph Richard. Donc, une petite exploitation qui devient de plus en plus grosse, qui sème sur différentes parties du batholite. Donc ici, défonçage de puits, évidemment, un passage à des exploitations minières tout à fait classiques, je dirais, telles que l'a défini Guillaulard tout à l'heure, avec une spécificité quand même qui est l'adoption quasi systématique de petites tours métalliques, qui ne sont pas des grandes tours en béton qu'on a vu tout à l'heure, mais qui sont des tours cup en métal d'une vingtaine de mètres de haut qu'on va voir à plusieurs reprises, et il y en a eu jusqu'à 3 à l'Écarpière. Avec, quand même, je parle un peu de souterrain malgré tout, une méthode par sous-niveau qui ensuite a été remplacée par une méthode par tranche remblayée. Donc, un des systèmes d'abattage bien connus des technologues miniers et qui donne des faciès en projection frontale tout à fait intéressants, où on voit bien que la totalité des dépilages ici suit au maximum la question, en effet, de la teneur, vous voyez la minéralisation, de la teneur en uranium au maximum pour aller ici au plus près de la mine. Mais vous savez tous, depuis qu'on... les travaux de Pierre Fluck ou de, je crois, Marie-Christine Baillimès qui est par là, que depuis le début, on va au plus près du filon, et évidemment, en uranium, on y va. Sauf qu'on va voir qu'on va au plus près du filon, mais pas toujours de la même façon qu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on n'est pas au millimètre près quand on passe à l'explosif et à la descendrie. Et en effet, je reviens ici à presque, en effet, la photo qu'a montré Pierre-Christian tout à l'heure, c'est cette indication qu'on est en souterrain, mais que en particulier dans les années 80, on a fait du ciel ouvert. Alors là, on passe plus du tout au même type d'exploitation, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un système filonnaire qui fait pas 10 cm. Mais pour exploiter 10 cm, on n'hésite pas à faire 80 mètres de diamètre par camion et par explosif pour gagner du temps, finalement, parce qu'on est dans des systèmes de productivité qui sont tout autres, ce qui pose aussi des problèmes de remblai au passage de manière radicalement différente. Donc vous voyez, vous reconnaissez la mine de tout à l'heure avec le puits, les ateliers, la grande mine à ciel ouvert avec la descendrie par camion qui descend. Pourquoi il y a une descendrie par camion qui descend? Non seulement pour la mine ici, mais ensuite on est revenu à la fin des années 80 à un système d'exploitation par descendrie en souterrain pour aller encore plus profond avec un système mixte puits et descendrie par camion, puis descendrie uniquement. On est là sur le modèle général de la mine d'uranium telle qu'elle a été définie, la grande mine d'uranium telle qu'elle a été définie en Vendée, avec, vous le voyez ici, des grandes zones de grands ciels ouverts qui posent en effet la question du devenir de ces lieux-là. On va en parler sur les carpières. Mécanisation ensuite. Camions, abattage, extraction par camion, remontée des camions, avec là ici une zone un peu intéressante que vous devinez peut-être, là voilà ici, c'est ce calcul sur place qu'on faisait à l'époque d'une évaluation globale du taux d'uranium de chaque benne en fonction de sa radioactivité. Donc, plus précisément, les carpières actuellement, c'est cette zone-là. Ce que je vous montre, pour la plupart, c'est des documents qui sont soit des documents issus du bouquin qu'on avait fait à l'époque avec les anciens de la COGEMA, ça s'appelait encore la COGEMA, en 1996, et des documents qui sont, on en reparlera plus tard, du dossier de déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers, qui sont donc des documents publics, mais que j'ai eu la facilité de pouvoir consulter sur le site de l'Écarpière chez Areva, sur le site encore existant. Donc, cette mine en activité, c'était 240 hectares, c'était plusieurs kilomètres de long. Ce que vous voyez ici, c'est la zone industrielle de traitement des minerais, la mine par là, le bassin de décantation, et puis une cité ouvrière qui est là, petite, qui est sur la commune basée à Saint-Crépin-sur-Meuse, en Maine-et-Loire, avec ce qui est intéressant ici, ce trajet de la rivière, détourné en 1985 pour pouvoir exploiter plus facilement certaines zones de la vallée en ciel ouvert. Donc des zones très travaillées sur le terrain, des zones très travaillées pas seulement par un carreau minier avec des puits, le système de puits et galeries qui finalement ne prend pas beaucoup de place au sol. Quand on va à Ouagny, ça ne prend pas beaucoup de place le carreau, mais il y a le terril, mais ça ne prend pas énormément de place. Quand on passe au ciel ouvert, on va avoir des conséquences paysagères qui sont radicalement différentes, mais on est toujours dans la mine. Et puis évidemment, cette question des bassins d'épandage, à la fois des eaux minières, mais aussi des eaux de traitement de la CIMO qui est là. C'était au passage, pendant fort longtemps, radioactif aujourd'hui, radioactif toujours, je ne sais pas, mais c'était au passage, maintenant le bassin d'épandage est complètement asséché. J'ai perdu ma souris, voilà. C'était au passage un des endroits favoris de la migration des oiseaux. Donc, une petite esquisse chronologique ici, 1952, etc. Ce qui est plus intéressant, oui, je viens de plus. Ce qui était intéressant, c'était les années 85 avec la transformation radicale de la mine avec l'abandon du système puits et galeries, mais le passage à la descenderie par camion. Cette modification radicale du paysage avec la transformation de la moine. Et puis l'importance aussi du ciel ouvert que je voulais vous indiquer, avec donc une extraction totale équivalente à 3965 tonnes d'uranium. Donc ce paysage-là, eh bien ma foi, on l'a en 1960, ici début 1960, avec les puits, avec c'est même avant 1960, c'est 1956, oui, puisque la CIMO est en construction ici, mais on a voilà le début de la mine, c'est ça. Et vous imaginez que ces puits ont duré jusqu'en 1990, date de fermeture. On a donc une mine qui augmente, qui est face au village de Saint-Crépin, avec cette vallée, avec ce système de talutage que vous devinez, puisqu'on a la vallée au fond avec des vers de 30 à 40 mètres de dénivelé. Fermeture de la mine, décision de fermeture en 1989, fermeture définitive de la mine en 1990, abattage successif des chevalements. Pourquoi ? Parce que c'est la législation minière qui l'emporte, en l'occurrence, ici. La législation minière, c'est qu'on doit rendre le sol tel qu'il était avant. Vous imaginez que quand on fait du ciel ouvert, c'est quand même un tout petit peu compliqué à faire cette histoire-là. Donc, la question, c'est comment on réaménage et qu'est-ce qu'on réaménage ? Alors, si vous vous rappelez de cette image-là, on a donc, vous vous rappelez, la mine, l'épandage, l'usine de traitement qui est là. Si on se met là, par contre, on a tout un travail qui a été fait de retalutage, de revégétalisation, de bouchage partiel de certains ciels ouverts. Et vous devinez ici, ce qu'on va voir un peu plus près, le travail qui a été fait en termes de garde quand même, de sauvegarde d'un étang. Ce qui a peu bougé, c'est la cité ouvrière en elle-même, qui n'est pas énorme. Hein. Les gens sont issus du terrain rural essentiellement en Vendée, habitent dans le coin. On n'est pas dans une logique minière énorme comme ici avec des cités ouvrières fortes. On avait un petit peu une barre HLM qui a sauté. On a quelques maisons qui restent encore. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un peu la façon dont on a effacé du paysage toutes ces traces-là. En particulier, ce qui s'est développé à partir des années 50-60 et le profil qu'on voit aujourd'hui, dont il faut bien avouer qu'il rappelle assez difficilement la mine malgré tout. Avec ces questions que je me pose moi sur comment on fait ça et qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, on a le tail. Il faut imaginer que là, il y a une ciel ouvert. Donc, on a le talus, on a des zones hyper exploitées, évidemment plus du tout végétalisées. Et on passe à un système de landes qui n'est pas franchement bocager. On est quand même dans un bocage ici, plutôt diffus, mais on est dans des zones bocagères dans ces confins Loire-Atlantique, Maine-et-Loire. Mais on est dans un système qui, finalement, rappelle peu, en effet, la mine, rappelle de la lande. Après tout, ce n'est pas tout à fait absurde dans certaines zones non plus de la région. Mais quand même, quand on a un peu l'œil, on se dit, tiens, c'est quoi? Là, il y avait une carrière. Donc, on ne sait plus que c'est de la mine, forcément, mais on est là-dessus. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir, la CIMO, actuellement, toute l'installation de traitement à proprement parler du minerai a été démolie au tout début des années 90. Ce qui reste encore, mais pour peu de temps, c'est les bureaux et les ateliers, qui sont pas mal, mais qui sont très dénaturés et qui ne nécessitent pas forcément qu'on se bagarre dessus pour les classer monuments historiques. Hein. Très franchement, je me suis battu pour des choses plus intéressantes auparavant, et vous aussi. Donc, il faut quand même savoir trier un peu les choses. Donc, et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est donc la question du bassin de dégrantation, dont on voit ici le talutage vers la partie haute, et dont il y a une partie centrale où les déchets les plus délicats, c'est-à-dire ceux de l'usine de traitement et certains déchets miniers type matériel et autres, sont centralisés dans une zone inaccessible, c'est-à-dire que l'ensemble est clôturé. Il y a quand même des questions de radioactivité, même si on peut y aller assez tranquillement quand même. On n'a pas de compteur GGR quand on y va, hein. De compteur de dosimètre, je veux dire, portatif. On n'y va pas quand même comme ça, c'est-à-dire qu'on y va avec autorisation et accompagnement d'un agent d'Areva, évidemment, puisqu'ils sont trois à travailler encore sur le site pour la surveillance. Donc, ce qui m'intéresse aussi à vous dire, c'est quand même qu'il reste quelque chose. Mais c'est quoi? C'est quelques ateliers, deux bureaux ou trois qui restent pour justement cette surveillance permanente du site. On a une toute petite lisibilité de ce grand site industriel avec juste un étang. C'est quoi ça? C'est un étang. Alors, c'est des oxydes de fer. Donc, on a une oxydation immédiate en sortie. C'est les eaux de la mine qui sortent là. On a une oxydation, une rouille, une oxydation naturelle. On n'a pas d'uranium en sortie de mine actuellement parce que l'uranium reste. L'uranium qui reste ne sort pas de la mine, il reste dans l'encaissant. Et on a juste un nettoyage successif avec deux ou trois zones de décantage des eaux et une récupération des boues qui va ensuite partir sur le bassin d'épandage, mais aussi ensuite une eau totalement propre, très surveillée. Je ne suis pas là pour polémiquer, je n'appartiens pas à la CRIRAD ni à Areva, donc pour ce qui est des réalités, des chiffres de surveillance ou pas, je m'en garderai bien de le faire. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce travail-là a été salué en son temps par la FAS, en l'occurrence, l'Association française pour l'avancement des sciences, par un prix Yvette Joutel en 1995, où Philippe Crochon, qui était à l'époque le responsable du site, et du réaménagement, a été félicité pour son travail. À tel point que Kojima en a parlé à la fois dans le chalet de l'Écarpière, qui était en son temps une lettre d'information sur les comptages, en particulier la publication des statistiques de radioactivité sur les points de sondage, à tel point aussi qu'on a fait des campagnes en anglais pour définir la qualité de ce site. Alors, évidemment, il y avait ça derrière. C'est-à-dire que la question de la radioactivité, de l'uranium, c'est la question du fantasme autour du nucléaire et autour de la radioactivité. On est donc sur un site qui est extrêmement surveillé aujourd'hui, avec des dosimètres un peu partout, avec des dosimètres et des prélèvements dans la chaîne alimentaire, des prélèvements dans l'eau, etc. On est sur des discussions qui sont tout sauf patrimoniales. Et, en effet, il n'y a peut-être plus de patrimoine du tout. Mais moi, je me pose la question de savoir, du coup, qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Est-ce que c'est ces traces, ou ces bouts de traces, ou ces non-traces qu'on a? C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on est sur le site, qu'on n'est pas tout à fait dans quelque chose qui était comme ça avant. On se dit bien qu'il y a un anthropisme, en tout cas, il y a une anthropisation du lieu, ça c'est très clair. Il y a une volonté de l'aménageur actuel, à savoir Areva, de faire quelque chose qui ne soit pas un parc paysager, qui soit quelque chose d'une renaturation douce. Il y a de la lande, il y a des agriculteurs qui ont des terres là-dessus. La discussion n'est pas patrimoniale, et en même temps, on est là sur un lieu très paradoxal, puisqu'on était dans une idée de l'hypermodernité de la deuxième moitié du 20e siècle. Enfin, c'était la grande aventure du nucléaire française. Qu'on soit contre ou pour, on était déjà dans quelque chose d'important. Et en même temps, il se passe à la fois quelque chose de très intéressant sur le site, c'est-à-dire qu'on est dans une renaturation très, très spectaculaire. Et il y a quelques éléments quand même qui sont intéressant. Là, ce que je vous montre, c'est la maison de la nature, de Saint-Crépin. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est la maison de la nature à Saint-Crépin qui s'occupe de faire une présentation de l'histoire minière de la Kojima. Donc, je trouve que c'est assez amusant. Je trouve même, il y a une assez jolie exposition sur le site qui, d'ailleurs, utilise une partie de la documentation qu'on avait réunie à l'époque avec les anciens de la Kojima. Au passage, cette maison de la nature, elle est dans un des bâtiments de la cité ouvrière de Saint-Crépin. Donc, on a là un petit peu quelque chose quand même qui reste d'un élément de patrimoine classique, si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas seulement ce patrimoine classique-là, moi, qui me questionne. Pour cette histoire, et c'est pour ça que je voulais nous questionner ensemble ce soir, parce que ce plus rien que je vous ai montré, moi, il me pose question sur mais comment on gère ça, quoi. Comment on continue à garder mémoire de ces éléments-là? Qu'est-ce qui se passe encore de cette non-trace par rapport à l'évidence, je veux dire, paysagère, ces choses-là? Et comment, finalement, on regarde ça? On a très, très bien posé ce matin la question du regard nécessaire. Le paysage n'existe que si on le regarde. C'est l'idée histoire-histoire. C'est des deux mots qui sont ambivalents. On fait l'histoire d'une histoire. Eh bien, on décrit un paysage. Ce paysage existe-t-il avant qu'il ne le soit et qu'on le décide? Et là, on est là sur cette question exactement de la même façon. La mine du Taï, elle était là. Les puits de l'Écarpière, ils étaient par là. Et là, cette lande qui est affectée à les agriculteurs, elle est là aussi. Pour parler, et j'en conclue, pour parler de cette question-là, je voudrais ouvrir très très rapidement, en quelques secondes, sur ces images-là. C'est la richesse minière des Pays de la Loire. C'est-à-dire qu'il y a quand même en Pays de la Loire des choses qui sont encore debout. Monuments historiques comme le chevalement de la tranchée houillée de la fin du 19e siècle, en bois, mais dans un état tout à fait inquiétant, mais monuments historiques quand même de la Pouesse des années 20, pour une situation ardoisière. Et puis, je voudrais quand même insister à nouveau, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, pas forcément devant vous, mais sur l'importance des chevalements de Trélazé avec leur installation de machines à vapeur en place et complète. Et pour finir, sur cette question de l'ouverture sur le paysage, c'est là un paysage de carrière, mais avec des technologies minières, en tout cas en souterrain, c'est le paysage des ardoisières. Et puis quand même, pour finir, dire que quand on peut y aller, quand on peut le voir, quand ça peut être mis en valeur, on peut aussi regarder le sous-sol dans une mine, si on peut y aller. En l'occurrence, une des chambres d'exploitation de la carrière de Noyon-la-Gravoyère des années 30, carrière d'ardoise, qui vient d'être ouverte au public il y a 2 ans. Et ça, je crois que ça aussi, ça peut être considéré comme du paysage. Voilà, je vous remercie. Merci.